On accueille sur le plateau Alexandre Sobo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Président de France Industrie, directeur général de Holot. Bienvenue à vous. Sébastien Lecornu doit rendre sa copie budgétaire cette semaine. Que sait-on des premières orientations du Premier ministre? Les choses se précisent un petit peu. Alors, on a déjà des premières pistes sur ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de retour de l'ISF, pas de taxe Zucman, pas de suspension de la réforme des retraites. Mais il y a une nouvelle piste qui est visiblement sur la table. C'est l'opinion qu'il révèle, le journal L'Opinion. Le barème de l'impôt sur le revenu devrait bien être gelé. Mais ce ne sera pas le cas pour la première tranche, pour éviter que certains Français rentrent dans l'impôt alors que leur revenu n'augmente pas. D'abord, une précision avec vous, Jean-Marc Sylvestre. Ça veut dire qu'on fait en sorte
de protéger les gens qui gagnent moins de
11 000... 497 euros.
Oh là là, vous connaissez les chiffres.
J'ai travaillé mon dossier, Jean-Marc.
Non mais 11 000, oui, par, 11 000 par, par an. Hein.
Par an.
On est d'accord. Hein.
Donc eux, on les protège. Mais pardon, derrière, ça veut dire quoi? Que les impôts de la classe moyenne, on les augmente.
Exactement.
Ils vont augmenter un petit peu en fonction de la du renouvellement du barème, qui ne devrait pas être énorme, parce que comme l'inflation n'a pas été importante, ça va pas. Bon, mais ça va marcher quand même. Oui. Mais de toute façon, c'est à chaque année, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la classe moyenne et notamment la partie haute de la classe moyenne qui paye l'essentiel de l'impôt sur le revenu.
Alexandre Sobo, une réaction peut-être à cette piste qui est visiblement l'une des pistes sérieuses de l'opinion. Les impôts... vous n'y croyez pas, vous?
Non, je ne crois pas que ce soit la piste la plus sérieuse de... Mais on sait, c'est une monnaie d'échange qu'il est en train de proposer à des courants politiques dont il voudrait s'assurer le soutien. Ce qui me frappe dans toutes les fuites qu'il peut y avoir autour de la loi de finances, c'est qu'il n'avance pas aussi vite qu'on ne le pense, qu'on ne le croit. Il est encore très très en retard. Et il concentre complètement son attention et son travail sur la partie fiscale. Et il a concentré le débat sur la partie fiscale. Il a répondu
parce qu'il sait
au
qu'il
débat.
Il sait qu'il n'a pas beaucoup de prise sur la réforme des retraites.
Oui, sur les retraites. Sur les formes de retraites.
Il abandonne cette piste-là,
Il est sans doute en train de travailler maintenant sur la partie dépenses. C'est-à-dire les... Quid des dépenses. Il a commencé d'ailleurs à faire de la pédagogie sur le prix des services publics.
Alors ça, on va en parler, Jean-Marc. Mais d'abord, Alexandre Sobo, quand même, là-dessus, le barème de l'impôt sur le revenu qui devrait bien être gelé, sauf donc pour la première tranche. On va donc augmenter les impôts. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous?
Dans un pays comme la France, qui est le plus fiscalisé du monde, avec le niveau de dépenses publiques le plus élevé du monde, si les impôts étaient la solution au problème du pays, on serait tous bien heureux, bien portants et riches. Donc je pense que quand on traite aujourd'hui les sujets de notre pays, il faut se donner une règle simple, on augmente les impôts de personne à aucun prix. Et ensuite, on commence à réfléchir. On réfléchit aux difficultés du pays, on essaye un peu comme en santé, il faut faire un bon diagnostic pour avoir une chance de trouver le bon remède. Et le problème de la France aujourd'hui...
Le levier fiscal ne doit en aucun cas être activé.
Pour nous, en aucun cas et pour personne. Parce que le sujet de la France, il est simple, c'est notre décrochage depuis 20 ans en termes de création de richesses. On avait le PIB par habitant équivalent, un peu en dessous des États-Unis, mais tout proche, le même que l'Allemagne ou les Pays-Bas. Aujourd'hui, on est, je crois, 22% en dessous de l'Allemagne, presque 30% en dessous des Pays-Bas et pas loin de 50% en dessous des États-Unis. Alors, je me méfie des comparaisons avec les États-Unis parce qu'il y a des sujets de change.
C'est pas un problème de change, hein. C'est un problème de démographie.
Pour éviter.
Parce que quand vous regardez le PIB par tête, vous avez un dénominateur qui change. En Italie, par exemple, les PIB.
Je parle du PIB par tête.
Le PIB par tête,
c'est rapproché. Je parle du PIB par tête qui a baissé. Et donc, le sujet de la France, c'est de recréer. C'est le PIB par tête qui a baissé.
Oui, mais le problème, quand vous regardez pourquoi il a baissé parce que le dénominateur. C'est la démographie. Ça se joue beaucoup sur le dénominateur. En Italie, sur 10 ans, il y a 2 millions de personnes en moins, mais qui ne touchent pas le marché du travail, puisque ce sont les enfants qui sont nés en moins, mais ils sont toujours dans la quantité dans le nombre des personnes au dénominateur. En France, il a dû augmenter, elle a dû augmenter de 2 millions. Ça fait 4 millions de différence dans le dénominateur, évidemment, le dénominateur
Honoré Guénaud qui veut penser que l'Italie ne se porte pas aussi bien qu'on le croit.
Non, c'est pas moi, c'est un article c'est un article des Échos qui a repris une des études de l'OCDE, et voilà, dans les Échos, pas dans Libération.
Alexandre Sobo.
Non, mais encore une fois, on a une responsabilité, et c'est l'attente de nos concitoyens qu'on crée les conditions pour développer la création de richesse, ou que soient les gens
tout à fait
dans
d'accord.
Dans l'arbre de la production, qu'ils soient très jeunes, qu'on ait besoin de les former, qu'ils soient proches de la retraite ou même qu'ils soient retraités, ils participent du sentiment du niveau de vie et de ce qui se passe dans notre pays.
Ça, Monsieur Sobour, ok, dans un, j'allais dire, dans l'absolu, dans un univers politique non fragmenté comme on a actuellement, votre solution est sans doute la meilleure, ne pas toucher au levier fiscal. Mais dans un monde politique fragmenté où il faut trouver un compromis. Parce que c'est quand même la difficulté de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, il cherche à trouver un compromis avec des formations politiques qui ne pensent pas pareil. D'un côté, il y a la question de l'impôt qui est banni à droite, et de l'autre côté, à gauche, on veut toujours un impôt. Donc,
on a quand même le sentiment qu'il a réussi là, en quelques jours, à mettre le couvercle sur le débat de fiscal, notamment pour les entreprises. Et il a siffler la fin de la chasse aux riches, par exemple.
On est sorti
de cette période.
On est sorti de la folie Zucman des derniers jours.
Excusez-moi, mais prenons quelques chiffres tout simples.
Non, mais il ne touche plus aux impôts.
Prenons quelques chiffres tout simples. Quand sous François Hollande, on taxait les revenus du capital autour de 70%, ça rapportait beaucoup moins que quand on les taxait à 30%. Et donc, le sujet, quand aujourd'hui on regarde ce que rapporte l'IS à 25%, ça rapporte beaucoup plus que l'IS à 35%. Donc, si on dit que le sujet, c'est de garantir les ressources de l'État, de régler nos problèmes de déficit budgétaire, on voit bien que les sujets d'assiette sont les sujets qu'il faut travailler. Et les sujets d'assiette, c'est notre enjeu. Et je vais prendre un dernier exemple. Il y a une étude qui a été refaite récemment. Alors, elle est sujette à caution parce qu'on parle de l'activité qui n'a pas été créée. Mais quand on essaye d'évaluer ce que les départs de France depuis l'IGF de 82 a coûté, il y a des gens raisonnables qui disent qu'en recette fiscale aujourd'hui, ça nous coûte entre 20 et 30 milliards d'euros. Oui, pour rapporter quoi? Avant que ce soit réformé, ça rapportait 3, 4, 5 milliards. Donc pour toucher 5, on se prive de 20. Je dis juste qu'à un moment donné, si on veut régler le problème du pays, il faut regarder le sujet tel qu'il est. Et le sujet, c'est qu'avec le niveau de fiscalité, le manque de compétitivité, la surréglementation dans tous les sens, on a ralenti notre capacité à créer de la richesse. Et dans un moment où on n'a pas de sous, si vous déréglementez, si vous arrêtez de surtransposer les normes européennes, si vous redonnez de l'air à notre tissu économique, on va reprendre une démarche qui va augmenter la taille du gâteau. Et comme l'État en prend la moitié, quand la part du gâteau augmente, l'État va trouver des solutions à ses problèmes budgétaires.
Alors, regardez,
peut-être pas instantanément, mais en investissement, si on se projette à 3 ans, 5 ans ou 10 ans, c'est la seule solution pour répondre aux problèmes du pays.
Regardez ce que nous dit Camille, qui nous écoute. Le gel du barème signifie plus d'impôts pour ceux qui travaillent. Est-ce que le gouvernement a calculé combien cela fait perdre à une famille? On sent bien que derrière, il y a le sentiment que c'est toujours les mêmes qui paient.
Mais c'est ça le problème. C'est tout le problème. Je partage tout à fait votre analyse, mais c'est tout le problème. Le problème, c'est que quand vous adoptez une approche purement comptable et arithmétique, vous faites tout sauf de l'économie. Voilà. C'est-à-dire que vous additionnez, vous faites des soustractions. Alors là, j'ai moins d'impôts. Et on ne tient pas compte des conséquences économiques des décisions qu'on prend. Et il est clair que si on continue de prendre le problème par le biais de la remise en ordre du budget, sans tenir compte du fait que le budget ne fait que refléter pour l'essentiel les désordres de l'économie et de la société, on va arriver dans un mur. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait ça, on remet du désordre dans l'économie et dans la société. Et on finit par, d'abord, on dresse les gens les uns contre les autres, parce que vous dites aux gens, en 1976, vous pouviez faire le plan Barre, parce que ça faisait, vous sortiez des 30 glorieuses, et les salaires avaient tellement explosé qu'ils avaient dévoré une bonne partie de la valeur, une trop grande partie de la valeur ajoutée. Attends. Je voudrais finir. Une grande partie de la valeur ajoutée. Donc vous pouvez leur demander des sacrifices à des gens qui ont énormément profité pendant des décennies. Là, vous sortez de 40 décennies, de 4 décennies, de sacrifices, ou en tout cas vécu comme tel par à peu près tout le monde. Bon, donc vous pouvez pas leur demander en plus se serrer la ceinture. Si vous leur demandez, vous les dressez les uns contre les autres.
Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Marc
Sylvestre? Finir, parce que si on peut pas finir.
Oui, mais il faut aussi faire tourner la parole. Mais allez-y.
Sinon, on ne peut pas aller au bout d'un raisonnement. Donc, si les gens ne veulent pas payer, que vous voulez les faire payer, bon, ou qu'ils ne peuvent pas payer, ils demandent que ce soit le voisin qui paye, que ce soit l'autre. Alors, ce n'est pas le particulier, c'est l'entreprise, ce n'est pas le privé, c'est le fonctionnaire, ce n'est pas le français, c'est l'étranger. Tout le monde, on dresse tout le monde les uns contre les autres. Et effectivement, le débat fiscal, il ressurgit au milieu de tout ça, parce que... Voilà, parce que il faut faire payer les riches. Alors les uns, se faire payer les pauvres, et puis les autres, il faut faire payer les riches. Salauds de pauvres et salauds de riches. On peut pas s'en sortir.
Ça fait
la question, elle est économique.
Ça fait écho, pardonnez-moi.
La question, elle est économique.
Ça fait écho à ce que dit Rachid, qui nous écoute là encore. Pourquoi toujours aller chercher l'argent chez ceux qui ont un salaire et pas chez ceux qui ont des énormes patrimoines?
Il faut le créer, l'argent. Il faut la créer, la richesse.
Le patrimoine, c'est ça,
on a un retard d'investissement qui est colossal dans ce pays, dans tous les pays occidentaux d'ailleurs. C'est un retard. L'OCDE a calculé que par rapport à la tendance de l'investissement avant la crise de 2008 jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas rattrapé, on a rattrapé à peine la moitié de l'écart. Donc, tout ça s'est accumulé sur, et je parle de l'investissement, là, on parle que de l'investissement physique. Il y a aussi l'investissement immatériel, le privé et le public. L'investissement immatériel, c'est le capital humain.
En cristallisant le débat, comme vous le faites, c'est évidemment intéressant, mais vous le cristallisez sur la fiscalité et vous apportez sur la fiscalité qui est en fait le seul outil que le gouvernement peut utiliser pour rééquilibrer.
On va rééquilibrer aujourd'hui pour déséquilibrer demain.
Je crois que l'erreur qu'avait fait le gouvernement précédent et que peut-être ne va pas faire Sébastien Lecornu, c'est de considérer que la dépense publique et la dépense sociale, en fait, justifie la lourdeur des impôts. C'est parce qu'il y a beaucoup de dépenses, et il y a beaucoup de dépenses publiques et dépenses sociales, que les gens ignorent d'ailleurs, dont ils ignorent le prix. Qui connaît le prix d'une opération chirurgicale à l'hôpital? Qui connaît le prix de l'éducation de quelqu'un?
Une fois qu'on le connaîtra, on n'ira plus se faire opérer.
Mais si, on ira se faire opérer. Mais on réfléchira peut-être à deux fois sur la façon
de se faire opérer.
C'est financé. Le prix d'une scolarité à l'école, c'est quand même.
Donc quand on trouvera que c'est trop cher, on n'ira pas à l'école.
Nous sommes un des pays où, effectivement, vous avez raison, qui est le plus fiscalisé des pays de l'OCDE, mais nous sommes aussi un des pays où le niveau des dépenses publiques et sociales est le plus élevé par personne. Où tout le monde a le sentiment que tout est gratuit chez nous. En France, en ce pays, l'école est gratuite, l'hôpital est gratuit, les transports sont subventionnés, tout ça.
Bien. On va faire payer l'hôpital et l'école, parfait.
Non, mais il y a quand même d'autres solutions.
Pardon, juste parce que ça intéresse aussi les téléspectateurs, on a beaucoup parlé de la taxe Zucman, donc ça c'est terminé. Il a mis une croix dessus, il a mis une croix sur l'ISF. Il y a encore deux pistes possibles pour faire contribuer les plus hauts revenus. Il y a de maintenir la contribution différentielle sur les hauts revenus qui avait été mise en place en 2025, qui ne devait être que pour 2025 et qui peut-être sera pérennisée.
Sera prolongée pendant 3 ans ou 3 ou 4 ans.
Et il y a le relèvement du prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax sur les revenus du capital, actuellement de 30%. Est-ce que c'est la moins pire des options pour vous?
Encore une fois, la question c'est quel est le projet de société? Le projet de société que, en tout cas, à France Industrie et dans le monde patronal, on porte, c'est de redévelopper l'économie française, augmenter la taille du gâteau. Le capital, notamment dans l'industrie, c'est un élément clé de succès. Henri Guénaud l'a très bien dit, on souffre d'un sous-investissement chronique qui est le reflet d'une surtaxation et d'un manque de compétitivité pendant 30 ans qu'on a commencé à corriger.
Alors pas seulement, c'est le reflet de beaucoup de...
Non mais c'est un élément, quand vous regardez les grands chiffres, si vous regardez le partage de la valeur ajoutée sur 30 ou 40 ans avec les données de la Banque de France ou de l'INSEE, le plus gros changement qu'on voit, c'est qu'on a remplacé des investissements par des impôts. Je vois pas où est le bénéfice collectif dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Donc, quand on a fait ce diagnostic, on se dit, il faut juste qu'on fasse comme nos grands voisins. Si on veut que le capital s'investisse chez nous, on demande pas des cadeaux. On dit, à combien est-il taxé chez les Allemands, chez les Italiens, chez les Autrichiens, chez les Espagnols? Regardez les chiffres. En moyenne, en Europe, on taxe le capital à 25%. En France, on est déjà à 30, plus 4% pour ceux qui ont beaucoup de...
35,
non, c'est 30, 35, plus les 4 de surtaxe Fillon. Vous êtes déjà à 34. On est déjà 10 points plus haut que les autres. Alors, je ne sais pas si un point de plus changera la face du monde, mais on est déjà fragile. Et l'industrie française, en particulier soumise à la concurrence internationale, demande une chose toute simple, mettez-nous dans les mêmes conditions que les autres et le génie français fera ses preuves. Donc, faisons-le sur les impôts, faisons-le sur la réglementation, faisons-le sur le droit social.
Sauf que vous avez compris, pardonnez-moi, qu'il y a une instabilité politique et qu'il va falloir faire des compromis.
Pardon, l'instabilité politique, elle n'empêche pas que d'un bout à l'autre de l'arc politique, tout le monde dit, l'industrie c'est majeur, c'est un instrument de souveraineté, il faut réindustrialiser le pays.
Sauf que ça c'est utopiste, vous avez entendu le Parti Socialiste qui ne jure que par la taxe Zucman.
Quand le président, le porte-parole de l'industrie française, que j'ai la chance d'être depuis quelques années, vous dit, vous voulez réindustrialiser, j'en ai parlé à tous nos adhérents, voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche, qu'en plus ça va augmenter la taille du gâteau et qu'à un horizon 5 ans, ça va aider à régler nos problèmes budgétaires. Celui qui décide de faire autre chose à ce moment-là, il n'assume pas ses responsabilités d'homme politique et ça ne devrait pas être un sujet dans le débat qui agite. Ils sont tous d'accord.
Mais vous savez bien que
vous écoutez le RN, les LR, tout le bloc central, les socialistes et même une partie des communistes, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut plus d'industrie dans ce pays.
Mais vous savez bien
que ils disent aussi qu'il faut que les riches
on va y arriver, on peut les écouter quand même.
Mais ils disent aussi qu'il faut que les riches contribuent à gauche, en tout cas du spectre politique.
Non, on a essayé de faire croire aux Français qu'il y avait des gens qui payaient moins d'impôts, ce qui est un mensonge absolu.
Mais vous
les règles de fiscalité sont bien connues. Et aujourd'hui, c'est pas vrai que quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez moins d'impôts que vous en payez quand vous en gagnez peu.
Pardon, arrêtons là-dessus, les plus riches, justement, peuvent activer le levier de l'optimisation fiscale et donc payer proportionnellement moins d'impôts que les moins aisés. Et ça, c'est perçu comme, pour beaucoup de Français comme une injustice.
Mais moins d'impôts que quoi? On a deux règles en France. On a, pour ce qui est des revenus, on paye l'impôt sur le revenu. Pour ce qui est du capital, on paye une flat tax. On paye une flat tax quand on est privilégié, qui est 10 points de plus que la moyenne européenne. Et en plus, quand on paye 30 ou 34, c'est sur de l'argent qui a déjà payé 25 dièses dans la société.
Oui.
Alors, donc ça, on est déjà à des niveaux élevés.
Ça n'évacue pas le...
Mais vous savez, pardonnez-moi,
non,
mais
pas le débat sur la...
Il faut pas comparer des choux et des carottes.
Ça n'évacue pas le débat sur la justice fiscale, qui est un autre débat, mais qui ne doit pas être lié au déficit budgétaire.
On peut en parler. Voilà. La dernière étude de l'INSEE montre que le ratio entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches, avant toute fiscalité et redistribution, l'écart il est de 18 à 19. Ouais. Quand on applique juste les impôts, on le divise par 2. Et quand on met toute la redistribution financière et non financière, on le divise par 6. Alors, il y a quelqu'un qui peut me dire que c'est pas assez, mais on peut pas dire qu'on ne fait rien en matière de justice.
Non, mais
on divise par 6 l'écart de revenus entre les 10% les plus modestes et les 10% les plus favorisés. Et on est, dans les grands pays industriels, celui qui fait la plus grande réduction d'écart.
La redistribution.
L'ensemble. Oui. Donc,
mais vous
on
savez
peut
bien
avoir
que
un
pour
débat,
pour
et je suis prêt à l'avoir avec
vous
qui
dites,
vous voulez, sur est-ce qu'on veut faire plus?
Oui, mais pour
mais les gens qui disent qu'il n'y a pas de justice et qu'il n'y a pas de redistribution n'ont pas regardé les chiffres.
Totalement d'accord. Encore. Et vous ne comptez pas le prix des services publics qui sont gratuits.
Si. Pour arriver à 3, pour le réduire à 3, vous prenez toute la redistribution financière et non financière.
Les services publics gratuits, ça profite à tout le monde, y compris
mais relativement, ça profite beaucoup plus aux pauvres.
Il faut
l'effet sur le revenu.
Pour arriver à ce que vous dites, et vous avez mille fois raison, augmenter la compétitivité de l'entreprise, il faut réussir à baisser les dépenses publiques et sociales de ce pays.
Ça, c'est la deuxième partie du raisonnement. On augmente la création de richesse, on touche pas aux impôts et on s'attaque aux dépenses. Et là, il y a énormément de choses à faire. Il faut le prendre par le bon bout sur l'organisation de l'État, sur les doublons.
Mais les grands, mais le grand gain sur les dépenses, comme sur les recettes, c'est la création de richesse. Parce que plus vous créez de richesse et d'emplois, moins vous aurez de victimes à secourir, moins vous aurez de gens à aider.
Il y a des dépenses qu'on peut gommer quand même. Il y a des dépenses qu'on peut gommer sans attendre.
Oui, mais ça, c'est toujours ce qu'on dit.
Ce qui est nouveau dans le débat,
je suis tout à fait d'accord pour regarder ça. Simplement, il faut arrêter de dire ça en général. C'est quoi la dépense? On fait comme Monsieur Bérou. On dit, alors voilà, les jours de carence, ça touche le travail qu'on veut soi-disant revaloriser. On escroque les retraités.
Henri, il y a des mécanismes de fonctionnement de l'appareil d'État qui pourraient être inspirés de ce qui est fait dans
le monde privé
pour pouvoir...
Je vais rebondir.
Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer dans toute organisation, et ça, qu'on soit en déficit ou pas, de toute façon, il faut le faire. Mais il faut bien comprendre que si vous faites des économies quelque part aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est la situation de l'État et du secteur public, vous serez obligé de les réinvestir ailleurs. Mais toujours pareil. Vous allez faire quoi? Vous allez laisser l'hôpital dans cet état? L'école dans cet état? La sécurité dans cet état? La recherche dans cet état? Non. Donc, vous faites des économies dans certains secteurs. Vous allez devoir les réinvestir. Vous n'allez pas vraiment baisser les dépenses, et en tout cas pas les dépenses en montant. Vous allez baisser les dépenses en part du PIB, parce que le PIB va augmenter, ce qui va diminuer le nombre de chômeurs, parce qu'il va faire rentrer de l'argent dans les caisses, voilà, et parce qu'il va permettre de moins de dépenses sociales. Voilà. Et il n'y a pas d'autre solution. Après, on peut discuter sur la meilleure façon d'arriver à
ce PIB. Que sur la partie sociale, en s'inspirant de ce qui se passe dans l'assurance, on pourrait faire.
Bon.
Bien sûr que si.
Jamais. Mais je sais très bien ce que vous avez derrière la tête. Jamais de la vie pour ce qui me concerne.
J'aimerais profiter quand même de la présence de deux patrons. Donc, je disais, il y a Alexandre Sobo, il y a Stéphane Manigold qui vient nous rejoindre, restaurateur, président de l'UMI. Bienvenue à vous.
Je parle en tant que patron, hein, pas en tant que syndicaliste. Hein.
Voilà.
Patron de PME, ça me va bien. Les syndicats, je les laisse là où ils sont.
Alors, justement, voulez-vous faire réagir à la déclaration d'un autre patron, Éric Larchevêque. Lui, il est le cofondateur de Ledger. Voilà ce qu'il dit dans un entretien au Point. Beaucoup de jeunes entrepreneurs me demandent s'il vaut mieux rester ou partir. Il y a quelques années, je leur disais « restez, entreprenez ici ». Aujourd'hui, je leur réponds que s'ils en ont la possibilité, il vaut mieux partir, car malheureusement, non seulement la situation en France est déplorable, mais elle ne va pas s'améliorer. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Stéphane Manigold ? Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Le climat n'est pas bon en France pour entreprendre ?
Mais je peux comprendre, mais je ne le partage pas. Je peux comprendre que quand un patron est un peu excédé par le poids des charges, le poids des normes, le poids des contraintes, la chasse au fond aux riches, ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent dans ce pays, on peut comprendre que c'est un vaccin contre l'optimisme. Par contre, moi, j'ai envie de considérer que la France est un pays extraordinaire et que j'ai pas envie d'abdiquer face à ce qui me paraît simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la dépense publique en fait qui collecte globalement et qui capte 1700 milliards de richesses nationales. Vous parlez de Bayrou tout à l'heure, lorsqu'il dit qu'il faut économiser 45 milliards, enfin lorsqu'il disait qu'il fallait économiser 45 milliards, pardon, on parle de 2,6% du budget total. Si une entreprise, un chef d'entreprise, il ne sait pas économiser 2,6% dans son budget, il faut qu'il arrête, il faut qu'il fasse autre chose, ça s'appelle le tribunal de commerce. Et les Français qui nous écoutent, eh bien, ils ont fait des arbitrages lorsqu'il y a eu des dépenses qui ont augmenté, bah, ils ont baissé d'autres dépenses. 2,6, c'est pas une montagne et c'est pas insurmontable. Ensuite, moi, je considère qu'en France, on a quand même cette capacité à réussir. Et je suis pas forcément, je trouve un peu ingrat de la part de celles et ceux qui ont réussi grâce aux moyens que la France a mis en place et qui disent aujourd'hui, demain, à notre jeunesse, barrez-vous, parce qu'au fond, il y a plus rien à faire ici. Mmh. Moi, j'aime pas ça. Je préfère aller convaincre les politiques, les parlementaires. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de faire. Et merci de me donner la parole. Je passe mon temps à les rencontrer. J'étais cet après-midi encore à l'Élysée.
Vous étiez à l'Élysée avec Emmanuel Macron.
Oui, sur.
Il a été question du budget dans vos discussions.
Oui, il a été question du budget, mais ça, c'est plus les parlementaires, parce que le président de la République aujourd'hui, c'est pas lui qui vote les budgets, c'est le Parlement.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il a confirmé que notamment dans mon secteur, par exemple la restauration, je crois qu'il faut à un moment revoir la TVA. On peut pas avoir une TVA, on oublie ce que ça veut dire TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. On peut pas avoir des gens qui réchauffent des plats, qui les mettent dans un micro-ondes et qui vous les délivrent avec une TVA à 10%. Il faut que cette TVA augmente. Il faut qu'elle passe à 20%. D'ailleurs, l'ensemble des Français nous en veulent dans la restauration. Ils considèrent que c'est une niche fiscale qui a plus lieu d'être. Il faut la rehausser. Moi, je suis favorable. Le président de la République l'a dit. On peut pas avoir. Il faut une fiscalité différenciée entre celui qui travaille, celui qui épluche, celui qui cuisine, celui qui crée de la valeur et celui qui simplement était un vendeur de plats, donc ça s'appelle la prestation de service. Donc vous voyez, j'étais tout à l'heure avec Philippe Brun, député socialiste, avec qui j'ai échangé sur cette mesure. Il va déposer une proposition de loi qui va viser à augmenter la TVA dans notre secteur, là où il n'y a pas de valeur ajoutée. Celui qui prend une barquette de micro-ondes, il emploie personne. Il cotise pas notre modèle social. Une borne, quand vous allez dans un fast-food et que vous passez votre commande auprès d'une borne, vous cotisez pas au modèle social. Donc, oui, je préfère m'attacher sur des solutions. Ça va rapporter 5 milliards d'euros à l'État. C'est pas rien dans les comptes publics. C'est peut-être plus intelligent que de faire travailler les Français qui portent déjà ce pays.
Donc, vous dites, vaut mieux trouver des solutions plutôt que dire quitter la France. Alexandre Sobo, honnêtement, sincèrement, est-ce que vous avez déjà envisagé de quitter la France?
Jamais. Moi, je considère que ce pays m'a donné beaucoup. Bah voilà. Et mon engagement dans le monde patronal, dans la défense des entreprises et pour l'industrie, c'est pour essayer modestement de lui rendre avec l'expérience, les idées, les propositions. Moi, j'adore ce pays, je veux qu'il réussisse. Parfois, je me désespère un peu quand je vois la nature des débats et la façon dont on est capable de se perdre sur des sujets qui sont pas fondamentaux. Mais en tout cas, tant que mes mandants me feront confiance, je porterai cette parole qu'on peut réussir en France et j'essaierai d'expliquer à tous ceux qui ont à un moment donné un pouvoir, ce qu'il faut faire pour que ça arrive.
Est-ce que ça doit passer par une manifestation comme le MEDEF a décidé de l'organiser ?
Ça passe par tout ce qui permet de faire avancer la cause.
Y compris une manifestation,
Je serai le 13.
Vous y serez le 13 octobre.
Bien sûr, je serai avec, je pense, tous les patrons responsables qui veulent que notre pays réussisse pour passer un message sur notre engagement, notre volonté de réussir, notre capacité à faire plus pour ce pays si on est capable de nous détacher quelques boulets. Je vous dis, nous, juste mettez-nous dans les mêmes conditions que nos grands
donc,
partenaires européens.
Donc, ce sera une sorte de votre mobilisation à vous pour faire pression sur le gouvernement.
Non, pas pour faire pression, pour dire qu'on peut réussir, pour dire qu'il y a un chemin.
Quel élément de compromis, vous, parce que bon, on voit bien que de toute façon, dans la situation politique compliquée du pays, parce que Sébastien Lecornu, lui, il raisonne pas avec une majorité tranquille pour faire avancer son projet. Quelle partie de compromis vous pouvez apporter?
Je peux pas apporter de compromis à des mesures qui vont coûter plus cher qu'elles ne rapportent à un horizon de moins de 5 ans. Parce que on va se donner l'impression qu'on a réglé le problème et en fait, l'argent va disparaître. Je l'ai donné l'exemple la dernière fois. Quand on fait partir, même très modestement, nos plus beaux entrepreneurs, des gens qui réussissent et qui créent de la richesse ailleurs, ça nous coûte plus que ça nous rapporte. Je voudrais que nos concitoyens comprennent qu'à un moment donné, le sujet, c'est pas de faire payer telle ou telle catégorie. C'est un moment d'assurer le développement économique du pays pour qu'on puisse, par la création de richesse, en étant compétitif, financer notre modèle social. Et ensuite, appartient à l'ensemble de nos concitoyens de choisir les équilibres du modèle social. Ma responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est pas de faire ses choix. Le citoyen peut avoir un avis, à un moment il va voter et il a son avis, mais le chef d'entreprise, il est là pour alerter sur le fait que c'est par la création de richesse qu'on se donnera une chance de rendre, quels que soient les choix et les nuances qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, qu'on se donnera une chance de financer le modèle qu'on veut. Collectivement.
Vous y serez, vous, le 13 octobre, Stéphane Manigold ?
Oui, j'y serai avec plaisir. Mais je vais aussi continuer à considérer que il faut arrêter d'opposer d'un côté les patrons et les salariés. Parce que dans les deux cas, on participe à l'effort national et dans les deux cas, c'est nous qui faisons que aujourd'hui, on arrive à collecter 1700 milliards. Et moi, j'aimerais juste un moment que, et d'ailleurs, les salariés le disent très bien aujourd'hui. En fait, ils ont pas envie qu'on aille faire la peau aux 1800 riches de ce pays parce qu'on va considérer qu'avec 1800 riches, on va régler le problème de la France. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que le pouvoir d'achat, il doit augmenter, qu'on doit mieux payer nos salaires, nos salariés, pardon, qui doivent mieux gagner leur vie, mais pour ça, il faut fracasser, je dis bien fracasser la différence qu'il y a entre le brut et le net. C'est pas normal que quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, ça nous coûte presque 4000.
Alors ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus, réduire l'écart entre le brut et le net et donc réduire certaines cotisations? Oui. Est-ce que ça, c'est possible? Emmanuel Macron a commencé à le faire.
Mais il faut rendre tout simplement le pognon aux Français. Il faut laisser la liberté de choisir.
Mais
pour sortir
que ça finance le modèle social.
Non, mais la Suisse, c'est pas le pays du tiers-monde. Et pourtant, quand à l'entreprise, ça coûte 5 000 francs suisses, le salarié prend 4 000. Et
dans ces 4 000, sociale en Suisse coûte extrêmement cher.
Oui, mais nous sommes dans un état nounou. L'état nounou qui vous explique quel est votre bonheur. Moi, j'ai par exemple dans mon groupe, j'ai 180 salariés. Lorsque nous avons revu la mutuelle, qui est obligatoire dans ce pays pour tous les salariés, j'avais de bonne foi et envie de mettre une mutuelle pour les cadres à 120 euros. Le jour où on a fait un appel d'offres et qu'on a revu, j'avais mis les différentes mutuelles pour tout le monde, de 36 euros à 120 euros. Ils m'ont tous appelé, on me dit, mais je peux prendre celle à 36 ? Oui, mais c'est quand même mieux celle à 120. Tout le monde a choisi celle à 36. Et même s'ils pouvaient ne plus l'avoir, ils auraient renoncé. 180 salariés, je n'en ai pas un qui a maintenu la mutuelle à 120 euros. Le compte emploi formation, le DIF. Regardez, je vous invite à regarder, vous qui êtes salariés. Allez regarder votre compte formation. Combien de fois vous l'utilisez ? On a des OPCO, c'est une usine à gaz, on a 11 OPCO. Cet argent, ce pognon, rendons-le aux Français. Et chacun choisit. T'as envie de te former ? Bah, paye ta formation. T'as envie d'avoir une bonne mutuelle ? Paye ta mutuelle. Mais on donne cet argent et chacun décide et on sort de ses têtes. Un nounou, on sort de l'État qui vous explique que parce que vous êtes bénéficiaire de la CAF, on va vous financer votre lave-vaisselle. Parce que vous êtes bénéficiaire de la CAF, on va vous acheter un canapé. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie que les salariés s'achètent eux-mêmes leur canapé.
Sur ces cotisations, elles pèsent.
J'ai pas envie qu'on donne des APL. Je veux que le salarié soit fier et qu'il paye lui-même son loyer.
Les cotisations, elles pèsent de plus en plus lourd au fur et à mesure du temps qui passe sur les fiches de paie. Quelques chiffres. Oui. Aujourd'hui, en moyenne, sur 100 euros versés par l'employeur, 54 euros terminent à la fin du mois sur le compte bancaire du salarié. En 90, il récupérait 60 euros. En 70, 69 euros. Sauf que peu à peu, la liste des cotisations s'est allongée. Et donc, ce qui nous reste sur la fiche de paie est de plus en plus faible. C'est une vraie piste, ça, Jean-Marc Sylvestre. C'est
de laisser la liberté aux gens de choisir le service qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr que la culture française soit préparée pour
de sortir de l'état nounou
et de sortir de l'état nounou. Parce que quand l'État s'est retrouvé obligé parce qu'il y avait un Covid ou parce qu'il y avait une crise inflationniste de donner des débats, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise et de particuliers qui ont refusé d'avoir les aides.
Alors moi, j'ai affronté mon assureur et je suis allé faire casquer mon assureur. Vous voyez, j'ai pas attendu que l'État me donne de l'argent.
Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il faut en venir à une situation où on devrait pouvoir faire son marché.
Ça s'appelle la dignité, oui, tout simplement.
Mais on pourrait faire son marché de services sociaux et publics, comme on l'entend, selon ses moyens et selon ses désirs. Mais la question que je voulais vous poser en vous entendant tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêt à aller revendiquer une harmonisation des conditions européennes? Parce que c'est bien joli, mais lui, avec ses restaurants, il peut pas déménager en France. Ses clients ne viendront pas forcément chez lui, mais il peut aller. Mais dans l'industrie, on peut déménager à Milan. En ce moment, vous avez une quinzaine, 1500 ou 2000 Français qui viennent de partir à Milan ou à Bruxelles ou dans
même à Rome visiblement.
Même à Rome ou dans un autre pays. Dieu sait si on a reçu du courrier à la suite de cette émission que nous avons fait sur Milan. Mais qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez une harmonisation européenne? Parce que la concurrence, elle est européenne aujourd'hui, notamment au niveau de la fiscalité.
Quand on prend les grands secteurs de l'économie, vous avez ceux qui sont en concurrence avec le monde et ceux qui sont en concurrence avec le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et c'est à la fois, les deux sont très importants, mais c'est pas la même problématique. Quand dans des secteurs qui sont pas délocalisables, il y a trop d'impôts et de charges, ça se retrouve dans le prix du service rendu. Et c'est nos salariés et nos concitoyens qui trouvent que c'est trop cher et qui le vivent avec les problématiques de pouvoir d'achat, de difficultés à joindre les deux bouts et tous ces éléments. Quand on est dans des métiers, en partie industriels, on est en concurrence. Quand on n'est pas compétitif, à un moment donné, l'activité en France s'arrête et le service, il continue d'être rendu par une usine qui n'est plus chez nous. Et là, on a tout perdu. Et donc, on dit juste, pour préserver ça, il faut du génie, de l'imagination, de l'innovation. C'est évidemment préserver le crédit impôt recherche. C'est aider toutes nos entreprises à être meilleures. Mais comme je le disais tout à l'heure, le génie français, ça peut beaucoup.
Sortir tout ça.
Mais ça peut pas tout.
Non,
mais
quand je dis aider, y compris des aides des entreprises.
Quand je dis aider, c'est nous placer dans les mêmes conditions que les autres.
Il faut plus d'aide pour les entreprises. C'est ce que vous dites. Elles jouent l'ordre de 200 milliards d'euros par an.
Juste un exemple. Non, mais je veux donner un exemple.
C'est ce que
j'ai fait ressortir le chiffre.
Une vraie fiscalité.
Aujourd'hui, vous prenez l'ensemble des entreprises. Entreprise française, elle paye un peu moins de 400 milliards d'impôts et de charges. Si on mettait ces mêmes entreprises et qu'on leur appliquait les règles allemandes, elle paierait 120 milliards d'euros de moins. 120 milliards de moins. Qu'est-ce que vous imaginez qu'on ferait de cet argent? On pourrait investir, on pourrait augmenter nos collaborateurs, on financerait mieux plein de choses qui relèvent de l'esprit et de l'espace de liberté que Stéphane revendique et que je partage pleinement. Bon, il faut être conscient de ces écarts. Il y a des endroits, ces écarts, ils se retrouvent dans le prix du service et les sujets de pouvoir d'achat. Dans l'industrie, ces écarts, ils se retrouvent à 30 ans de désindustrialisation qu'on a péniblement enrayé en 2017 avec une très légère croissance. Et toutes les incertitudes et toutes les questions qui se posent font revenir le risque que la courbe de descente recommence. Et moi, ma responsabilité, c'est d'alerter tous ceux qui nous gouvernent sur le fait que notre souveraineté, notre création de richesses, la façon de répondre à tous les défis de demain, on n'y arrivera qu'avec une seule chose, c'est plus d'industrie, pas moins.
Pour votre présence le 13 octobre. Juste, j'aimerais vous faire écouter, vous avez un soutien de tous les deux, de Louis Sarkozy, vous l'avez entendu sur RMC BFM TV ce matin. On écoute le fils de Nicolas Sarkozy.
La démocratie n'appartient pas qu'aux syndicats. Les entrepreneurs ont aussi le droit de dire stop à la stigmatisation et à l'impôt qui s'empile sans fin. La France, c'est aussi eux, ceux qui embauchent, qui innovent, qui exportent. Quand ils se taisent, on les traite de privilégiés. Quand ils parlent, on les accuse d'arrogance. Eh bien, le 13 octobre, ils parleront. C'est assez rare. La mobilisation patronale la plus mémorable remonte à 1982, cette fois contre François Mitterrand. S'ils ressortent aujourd'hui, c'est parce que la coupe est pleine, alors que nous sommes déjà les champions du monde de l'impôt. La gauche agite encore le spectre d'une taxe Zucman. C'est toujours la même réponse. Au moindre problème, on invente un nouvel impôt.
Content que Louis Sarkozy vous soutienne, Stéphane Manigold.
Écoutez,
ça,
moi
ça
je suis
fait
content.
Rire, ça fait rire, non,
vous savez, ça fait des années que j'imagine comme vous, on essaie de réconcilier les salariés et les patrons. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer cette France. Il faut que chacun se retrousse les manches, travail, effort, persévérance. Il y a que ça de vrai. Et à un moment, la France, pardon, c'est un beau pays. Et je sais d'où je parle, je sais d'où je viens. Moi, je viens de banlieue, d'une famille pauvre en Alsace. J'ai été placé dans un foyer. Et pourtant, c'est parce que la France, et parce que je suis né en France, que je peux être là, que j'ai embauché, que j'ai créé de la valeur, que j'ai créé de l'emploi. Que j'ai créé 180 salariés. J'ai pas envie de me résigner à dire il faut partir ou attendre que Louis Sarkozy distribue les bons points. Aujourd'hui, nous avons 1700 milliards. Vous avez des attentes des Français. Les attentes des Français, si je prends, c'est éducation, sécurité. Quand je regarde dans le poids des dépenses, la sécurité, c'est 3% du budget. Et l'éducation de nos gamins, c'est 9%. Vous croyez que les parents, ils sont pas fous quand dans des banlieues, il y a des profs qui sont pas là, il y a pas de prof en face des gamins et pendant 6 mois, il y a pas un prof. Il est là le problème. Il est là le fait que, y compris les Français les plus démunis disent, on n'a pas envie de payer plus d'impôts parce qu'on sait pas comment vous utilisez notre argent. Et en fait, on a un vrai problème de compétence de l'utilisation de la richesse nationale. Il est là le sujet. C'est qu'en fait, il y a une vraie décorrélation entre ce que les Français souhaitent et la façon dont c'est utilisé. Et vraiment, vous regardez ce camembert de dépenses, il y a une décorrélation totale.
Bon, on verra ce qu'il
sort
sur la copie.
C'est comme si nous, on faisait une offre qui ne correspond pas à la clientèle. On ferme.
On verra ce qu'il met sur sa copie qu'il rend cette semaine, Sébastien Lecornu. On a un petit peu du mal, Henri Guénaud, à voir comment il va pouvoir échapper à la censure, Sébastien Lecornu. En l'état, on va tout droit vers une dissolution, selon vous ? Comment vous ?
Un mot, c'est pas parce que je vais pas continuer la conversation, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Le problème en France, c'est qu'il nous manque une politique économique et que très bien, il faut baisser les charges.
Mais
la baisse des charges ne sera que la conséquence de la réussite de cette politique économique et pas l'inverse.
Et voilà. Augmentation des salaires. Attention, je précise.
Oui, mais bien sûr.
Nous, les patrons, ne demandent pas une baisse de charges sans augmentation de salaire.
Mais non, mais la baisse, c'est bien gentil. Ouais. On va baisser les charges, sauf que les victimes, elles sont là pour l'instant et qu'il faut bien arriver à les aider et à les supporter. Donc, la question de du déroulement de la séquence de politique économique qui nous conduit de la politique actuelle, qui est, en fait, il n'y a pas de politique économique depuis 40 ans, parce que le discours, il faut baisser les charges pour augmenter les salaires, ça fait 40 ans que je l'entends. Bon, et on a toujours plus de charges et toujours moins de salaires nets. Donc, si vous voulez que le pouvoir d'achat augmente, effectivement, il faut augmenter la richesse, et il faut d'abord une politique de création de richesse, et non pas d'abord une politique de baisse des charges. Voilà, ça prendait beaucoup trop de temps pour parler de... Pour discuter de
et
ça.
Et sur la suite, est-ce que vous pensez, comment vous ressentez les choses, vous qui connaissez bien la politique?
Je les ressens pas bien comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est une situation extraordinairement compliquée. Effectivement, il va falloir négocier un budget qui sera pas un bon budget, qui ne satisfera personne. Mais surtout, il faut que le gouvernement soit modeste. Il n'a pas de mandat pour réformer le pays. Il n'a pas de mandat pour faire une grande réforme fiscale.
C'est modeste. Hein.
Oui, mais on verra. On va le voir dans le résultat. Soit il est modeste et il dit, moi, mon devoir, c'est d'assurer la continuité de l'État, de faire face aux événements, et pas d'engager une politique qui va satisfaire le programme de telle ou telle partie.
Pour l'instant, il est dans l'excuse.
Ça n'est pas possible. Et je suis frappé d'une chose. On parle de tout. Regardez, il y a des choses qui sont sur la table. Par exemple, le traité sur le Mercosur. Mais personne n'en parle. Mais ça, c'est le rôle du gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire, il peut pas éluder cette question. Après, vous vous étonnerez si les agriculteurs mettent le feu partout. Ça fait tellement de temps qu'on se moque d'eux. Voilà. Et là, on dit rien là-dessus. Et ça, c'est un vrai sujet.
On en a parlé du Mercosur, en ce moment.
Non, mais est-ce qu'on peut mettre d'accord les principaux partis?
Tous les partis ont voté une résolution au Parlement.
Mais Bruno, je dis, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y aura une nouvelle dissolution? Ou est-ce que Emmanuel Macron, qui veut tout faire pour éviter une nouvelle dissolution, est capable de nommer à nouveau un nouveau Premier ministre si jamais ça ne marche pas?
Avant d'en arriver là, Sébastien Lecornu est en train de se débattre pour éviter une dissolution.
Il n'est pas encore mort, vous dites.
Éviter sa chute. Écoutez, il y a deux solutions. Hein. Voilà. Il tente la voie du compromis, on voit bien. Sur la table, il essaie de trouver une solution avec les socialistes. Ça semble compliqué, mais les socialistes eux-mêmes ne veulent pas de dissolution. Il faut quand même bien être conscient de ça,
les Républicains. C'est quand même très clair. Ça.
Donc du coup, ils essaient de travailler pas à pas, c'est en coulisses.
C'est plutôt bien.
Oui, ça discute. Ça discute quand même beaucoup. Le RN ne veut pas de dissolution.
Le RN veut une dissolution.
Le RN facialement veut une dissolution. C'est peut-être un peu plus compliqué. Cela étant, c'est très compliqué pour Sébastien Lecornu de faire confiance au RN. Il y a le précédent de Michel Barnier qui leur a fait confiance avant de se faire couper la tête au dernier moment.
C'est compliqué, oui. Hein.
Donc, il va prendre le risque pour l'instant d'aller vers le RN. Mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Il peut aussi, si ça, on voit bien qu'il essaie d'avoir un peu, parce que c'est un. Je pense que la différence entre Michel Barnier et François Bayrou, c'est que Sébastien Lecornu essaie réellement discuter en coulisses avant d'avancer
devant les
publiquement.
Caméras.
Et je pense que même il va sans doute repousser sa déclaration de politique générale pour se donner le plus de chances possible d'échapper à une censure. Parce que il peut très bien tomber sur une censure immédiate, et là, Emmanuel Macron se sentira très compliqué. Les jeux ne sont pas faits pour Sébastien Lecornu.
Le problème qu'il a, c'est que quels que soient les calculs des différents partis, ils sont prisonniers aujourd'hui de leur base électorale. Ben oui. Aujourd'hui, c'est la fracturation de la société, sa radicalisation qui mène le jeu. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que le RN n'avait pas l'intention de renverser, de voter la censure contre Michel Barnier, mais quand les députés RN rentraient dans leur circonscription, ils se faisaient agonir d'injures. Bon, eh bien, à ce moment-là, le RN, ne voulant pas perdre sa base électorale, vote ce que sa base électorale lui dicte. Et c'est vrai pour tous les partis. Donc, c'est bien de négocier avec les partis, d'avoir un accord, mais il faut pas s'étonner si cet accord est fragile. Il est fragile parce que ils sont tous sous la domination de leur électorat, de leur socle électoral.
Je pense qu'ils sont pas sur cette base électorale. Ils sont dans leur gestion de carrière personnelle et leurs ambitions personnelles.
Non, mais ils ont pas le choix, pardon, c'est tout.
Mais
ils ont pas le choix, c'est leur base électorale.
On a sorti la fanfare en expliquant que le 10 septembre, le pays allait être bloqué. Les manifestations, ça a été un bide total. Total.
Enfin,
200 000 personnes dans le pays. Enfin, c'est un bide, pardon.
C'est sur 30 millions d'actifs. Après, il y a eu 500 000 selon la police.
Deux mois de battage médiatique puissant pour se retrouver à 200 000. Et huit jours après, la même chose. Tout le monde disait qu'il y avait 1 million. Un million. Et au final, il se retrouve à 400 000. Bon, on peut pas dire que c'est un franc succès. Il y a 30 millions d'actifs dans ce pays. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se mettent d'accord. Qu'ils arrêtent de jouer, qu'ils sortent de la colonie. Il reste 560 dodos avant le tour de la première, du premier tour de la présidentielle. Qui nous laisse un peu respirer.
Parce que d'un mot très court, ça a un impact très concret sur votre entreprise, là, cette instabilité politique.
Ben, aujourd'hui, entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en France, on voit revenir un attentisme à tous les étages. Alors, comme toujours dans l'industrie, on a une forme d'inertie, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, qui se voit dans les chiffres, c'est des décisions qu'on a prises il y a 1 ou 2 ans, quand on a commencé à faire une usine, qu'on a dépensé les 3/4 de la somme, même si les situations sont compliquées, on l'a fini. Donc ce qui est en train aujourd'hui d'être affecté, c'est les décisions pour 2026 et surtout 2027. Et moi, tous les jours, quand j'en parle avec mes banquiers, quand j'en parle avec mes adhérents, avec tout l'écosystème, on voit que l'attentisme est en train de gagner tous les morceaux de l'économie française, à quelques exceptions de secteurs, je pense à l'aéronautique, qui est tiré par l'export et un dynamisme qui dépasse largement nos frontières. Mais globalement, on voit une économie qui donne tous les signes d'un ralentissement à venir.